Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit de feu, toi, notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Ô Esprit de feu, toi, notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Vierge Marie, temple de l'Esprit Saint, femme eucharistique par excellence, nous nous confions à ta prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sacré cœur de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il nous revient ce soir d'ouvrir ce temps de rencontre avec l'enseignement intitulé ainsi « L'institution de l'Eucharistie par Jésus juste avant l'agonie ». Ce choix du titre de l'enseignement nous aidera d'autant plus à vivre par la suite ce merveilleux temps de l'heure sainte. Ce temps va se présenter avec trois points. Je vais commencer avec comme une introduction avec l'Eucharistie au sens large du terme, ce merveilleux sacrement. Ensuite, à partir de la lettre encyclique de Saint Jean-Paul II. Et enfin, avec un partage, le concours du Père Jean-Rodolphe, un de ses écrits qui nous aidera à entrer davantage en ce lien Eucharistie-agonie. Un premier point sur l'Eucharistie en général. Nous le savons, le Concile Vatican II n'a pas publié de documents spécifiques sur le mystère eucharistique, mais il en a illustré les divers aspects dans l'ensemble de ses documents, spécialement dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église et dans la Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium. Finalement, qu'est-ce que l'Eucharistie ? L'Eucharistie, nous dit le Concile, est la source et le sommet de toute vie chrétienne, car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Nous lisons en Saint-Luc au chapitre 22, « Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. » Le Concile nous dit dans la Sainte Liturgie au numéro 47 « Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. » C'est au paragraphe 47. Oui, l'Eucharistie est un véritable résumé et la somme de notre foi. Saint Irénée disait en son temps, Notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie, et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. Par la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons quelque part la vie éternelle, quand Dieu sera tout en tous. Pendant l'Eucharistie, quand nous nous approchons pour recevoir la Sainte Communion, nous recevons en partage le Christ et avec lui tous nos frères. Nous devenons alors ce que nous sommes par notre baptême, le corps du Christ. Citons saint Augustin. Si vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre sacrement qui est placé sur la table du Seigneur. Vous recevez votre sacrement. Vous répondez « Amen ». Oui, c'est vrai. Vous répondez « Amen » à ce que vous recevez et vous y souscrivez en répondant. Tu entends ce mot, le corps du Christ, et tu réponds « Amen ». Sois donc un membre du Christ pour que soit vrai ton « Amen ». Fin de citation. Ce sacrement est appelé Eucharistie parce qu'il est action de grâce à Dieu. Les mots en grec « Eucharistein » et « Eulogein » rappellent les bénédictions juives qui proclament, surtout pendant le repas, les œuvres de Dieu, c'est-à-dire la création, la rédemption et la sanctification. On l'appelle aussi « repas du Seigneur, fraction du pain, assemblée eucharistique, mémorial, saint sacrifice, sainte et divine liturgie, saint mystère, très saint sacrement, communion, sainte messe. » Lorsque l'on offre des sacrifices, on accomplit l'ordre que notre Seigneur nous a donné, selon ce que dit l'apôtre saint Paul. Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré, prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sacrifice, frères et sœurs, est donc offert pour que la mort du Seigneur soit annoncée et pour que l'on fasse mémoire de lui qui a donné sa vie pour nous. Lui-même l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puisque le Christ est mort pour nous, par amour, lorsque nous faisons mémoire de sa mort au moment du sacrifice, nous demandons que l'amour nous soit accordé par la venue du Saint-Esprit. Nous prions humblement qu'en vertu de cet amour, par lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce du Saint-Esprit, nous puissions considérer le monde comme crucifié pour nous et pour être nous-mêmes crucifiés pour le monde. Nous imitons alors la mort du Seigneur, de même que le Christ est mort au péché une fois pour toutes, et lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi devons mener une vie nouvelle, dit la Sainte Écriture. Un évêque de Ruspe en Tunisie, saint Fulgence, au 5e, 6e siècle, écrivait, je cite, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est justement la participation au corps et au sang du Seigneur, lorsque nous mangeons son pain et buvons à sa coupe, c'est cela qui nous invite à mourir au monde. En ayant notre vie cachée avec le Christ en Dieu et à crucifier notre chair avec ses passions et ses convoitises. C'est ainsi que tous les fidèles qui aiment Dieu et le prochain, même s'ils ne boivent pas à la coupe de la passion corporelle, boivent cependant à la coupe de l'amour du Seigneur. Une fois enivrés par elle, ils doivent faire mourir en eux ce qui appartient encore à la terre. Eux qui ont revêtu Jésus-Christ, qui ne s'abandonnent pas au désir de la chair, qui ne regardent pas ce qu'ils voient, ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. C'est ainsi que l'on boit à la coupe du Seigneur lorsqu'on observe la sainte charité. Sans elle, on pourrait se faire brûler vif, sans que cela ne serve à rien. Le don de la charité nous apporte ceci, que nous soyons réellement ce que dans le sacrifice, nous célébrons sacramentellement. Voilà quelques mots déjà pour nous introduire dans ce lien Eucharistie et offrande agonie du Christ. Nous entrons dans un deuxième point avec la lettre encyclique du pape Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, il y a 30 ans, c'était en avril 2003, l'Église vit de l'Eucharistie. Permettez-moi de commencer mon propos en citant directement l'introduction du pape, au paragraphe 3 et 4. L'Église naît du mystère pascal. C'est précisément pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excellence du mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. On le voit bien dès les premières images de l'Église que nous donnent les Actes des Apôtres. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. Actes 2, 42. L'Eucharistie est évoquée dans la fraction du pain. 2000 ans plus tard, nous continuons à réaliser cette image primitive de l'Église. Et tandis que nous le faisons dans la célébration de l'Eucharistie, les yeux de l'âme se reportent au Triduum pascal, à ce qui se passa le soir du Jeudi Saint, pendant la dernière scène et après elle. En effet, l'institution de l'Eucharistie, écrit Jean-Paul II, anticipait sacramentellement les événements qui devaient se réaliser peu après, à partir de l'agonie à Gethsémani. Nous revoyons Jésus qui sort du Cénacle, qui descend avec ses disciples pour traverser le torrent du Cédron et aller au jardin des Oliviers. Dans ce jardin, il y a encore aujourd'hui quelques oliviers très anciens. Peut-être ont-ils été témoins de ce qui advint sous leur ombre ce soir-là, lorsque le Christ, en prière, ressentit une angoisse mortelle et que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Luc 22, 44. Son sang, qu'il avait donné à l'Église peu avant comme boisson de salut dans le sacrement de l'Eucharistie, commençait à être versé. Son effusion devait s'achever sur le Golgotha, devenant l'instrument de notre rédemption. Le Christ, grand prêtre des biens à venir, entra une fois pour toutes, dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeune taureau, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Le paragraphe 4 de la lettre encyclique de Jean-Paul II, l'introduction. L'heure de notre rédemption, bien qu'il soit profondément éprouvé, Jésus ne se dérobe pas à son heure. Que puis-je dire ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Jean 12, 27. Il désire que les disciples lui tiennent compagnie. Il doit au contraire faire l'expérience de la solitude et de l'abandon. Nous lisons en Matthieu 26, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Nous le verrons dans un instant, seul l'apôtre Jean restera au pied de la croix, à côté de Marie et des pieuses femmes. L'agonie à Gethsémani, écrit le pape Jean-Paul II, a été l'introduction de l'agonie sur la croix le vendredi saint. L'heure sainte, l'heure de la rédemption du monde. Quand on célèbre l'Eucharistie près de la tombe de Jésus à Jérusalem, on revient d'une manière quasi tangible à son heure, l'heure de la croix et de la glorification. Tout prêtre, écrit Jean-Paul II, qui célèbre la messe, revient en esprit, en même temps que la communauté chrétienne y participe, à ce lieu et à cette heure. L'Eucharistie, nous l'avons entendu, est donc évoquée dans la fraction du pain. 2000 ans plus tard, nous continuons, frères et sœurs, à réaliser, comme l'écrivait le pape, cette image primitive de l'Église. Et tandis que nous le faisons dans la célébration de l'Eucharistie, les yeux de l'âme se reportent véritablement au Triduum pascal. Contempler le Christ exige que l'on sache le reconnaître partout où il se manifeste, dans la multiplicité de ses modes de présence, mais surtout dans le sacrement vivant de son corps et de son sang, la Sainte Eucharistie. Comme l'écrivait le Saint Concile, l'Église vit du Christ eucharistique. Par lui, elle est nourrie, par lui, elle est illuminée. L'Eucharistie est un mystère de foi et en même temps un mystère lumineux. Chaque fois que l'Église la célèbre, les fidèles peuvent en quelque sorte revivre l'expérience des deux disciples d'Emmaüs. Comme nous le lisons en Luc 24, 31, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Oui, l'Église vit de l'Eucharistie. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant d'espérances confiantes. Et ici, en la cité du cœur de Jésus, nous ne pouvons pas dire que les parodiens, les chrétiens de part et de Monial, en soient dépourvus. La très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant qui, par sa chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. Même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. Elle est un lien entre le ciel et la terre, elle englobe et imprègne toute la création. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création dans un acte suprême de louange à celui qui l'a tiré du néant. C'est ainsi que lui, le prêtre souverain et éternel, le Christ, entrant grâce au sang de sa croix dans le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au Créateur et Père. Il le fait par le ministère sacerdotal de l'Église, à la gloire de la Trinité sainte que nous honorons dimanche. C'est vraiment là le mysterium fidei, le mystère de la foi, qui se réalise dans l'Eucharistie. Le monde, sorti des mains de Dieu Créateur, retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. L'Église a reçu l'Eucharistie du Christ, son Seigneur, non comme un don, pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de lui-même. De sa personne, dans sa sainte humanité et de son œuvre de salut. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, nous dit Jean au verset 1 du chapitre 13. Nous l'entendrons. Un amour qui ne connaît pas de mesure. L'efficacité salvifique du sacrifice se réalise en plénitude dans la communion, quand nous recevons le précieux corps et le précieux sang du Seigneur. Le sacrifice eucharistique tend en soi à notre union intime, à nous, fidèles, avec le Christ à travers la communion. Nous le recevons lui-même, lui qui s'est offert pour nous. Nous recevons son corps, qu'il a livré pour nous sur la croix, son sang, qu'il a répandu pour la multitude en rémission des péchés. Rappelons-nous ces paroles en Jean 6. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Jean 6, verset 57. C'est Jésus lui-même qui nous rassure. Une telle union qu'il compare par analogie à celle de la vie trinitaire se réalise vraiment. L'Eucharistie est un vrai banquet dans lequel le Christ s'offre en nourriture. Il nous convient maintenant, grâce au concours du Père Jean-Rodolphe, son écrit sur le cœur eucharistique dans la Bible, d'évoquer le lien entre Eucharistie et agonie comme le transpercement invisible. Comme nous l'avons évoqué, c'est essentiellement grâce à l'écrit joannique, à l'Évangile selon saint Jean, et notamment au chapitre 13. Au chapitre 13 de son Évangile, l'apôtre bien-aimé, saint Jean, ne relate pas l'institution de l'Eucharistie au cours du dernier repas, comme le font les autres évangélistes. Le quatrième évangile parle longuement de l'Eucharistie au chapitre 6, dans le cadre du discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Il n'en reste pas moins que dans ce chapitre 13 est vraiment mentionné, fait part, de l'amour de Dieu. C'est le chapitre de l'amour du bouleversement, du transpercement invisible par amour. C'est le chapitre de la révélation de l'extrême vulnérabilité par amour du cœur de Jésus. Et donc, ce chapitre 13 a aussi une profonde dimension eucharistique, puisqu'en nous aimant jusqu'à la fin, en se laissant invisiblement transpercer, Jésus se livre. Lisons au chapitre 13 de Saint Jean ce verset premier. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens, qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Le défunt pape Benoît XVI, dans une homélie donnée en la basilique Saint-Jean de Latran en mai 2005, évoquait ainsi le mystère de l'Eucharistie. Dans ce mystère, l'amour du Christ se fait toujours tangible parmi nous. Là, il se redonne continuellement. Là, il se refait continuellement transpercer le cœur. Là, il tient sa promesse, la promesse que, de la croix, il aurait tout attiré à lui. C'est grâce à ce centre et à ce cœur, grâce à l'Eucharistie, que les saints ont vécu en apportant l'amour de Dieu dans le monde sous des formes et des manières toujours nouvelles. Grâce à l'Eucharistie, l'Église renaît sans cesse de nouveau. Fin de citation. Nous pouvons donc tout à fait, frères et sœurs, concevoir que cette dernière scène, ce dernier repas, où Jésus se révèle être à la fois le Maître qui gouverne toutes choses et l'agneau qui va se laisser immoler, est le cadre par excellence des paroles ineffables et véritablement fondatrices qui résonneront dans toute leur densité. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Oui, c'est déjà le transpercement, mais encore sous la forme sacramentelle, avant que le transpercement physique ait lieu le lendemain sur le Golgotha. C'est au cours de l'institution de l'Eucharistie, écrit le père Jean Rodolphe, que Jésus se livre dans un amour qui le lie, qui l'enchaîne. Il devient comme captif de son désir, passionné de nous sauver, alliance nouvelle et éternelle. Ce qui rend encore plus aiguë la terrible épreuve de l'agonie au jardin des Oliviers. Théoriquement, à Gethsémanie, il est encore libre. Il pourrait en réchapper avant l'arrestation. Eh bien non. Et c'est là, me semble-t-il, le nœud de ce qu'écrit le père Jean-Rodolphe. Théoriquement, à Gethsémanie, Jésus est vraiment libre. Il aurait pu en effet partir, quitter. Mais Jésus va rester jusqu'au bout. Et c'est la même logique, écrit le père Jean-Rodolphe, de l'amour par lequel le Christ s'est laissé lui-même enchaîner. Il s'est livré au cours du dernier repas. Et là, à Gethsémanie, Jésus est déjà cloué à la croix de l'amour, transpirant du sang, broyé par l'angoisse, semblant ne plus exercer apparemment sa puissance divine, laquelle est encore visiblement à l'œuvre lors de l'institution de l'Eucharistie, du plus profond de son cœur, intérieurement broyé et transpercé, Jésus puise comme en un cri silencieux la force d'amour qui lui fait dire, en un acte de liberté crucifiant, « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est cette parole qui nous sauve. C'est cette parole qui nous sauve, adoration parfaite du Père et compassion inépuisable, plus forte que la mort, comme nous pouvons le lire dans le Cantique au chapitre 8. Il les aima jusqu'à la fin, avons-nous lu en Jean 13. Alors, oui, Jésus va être totalement livré et réduit à l'impuissance, ligoté, outragé, et mourir finalement sur la croix. Frères et sœurs, l'épisode de l'agonie, au cours de laquelle Jésus semble apparemment ne pas exercer sa puissance divine, est peut-être le lieu le plus expressif de la kénose, déjà évoqué à propos du lavement des pieds, nous l'avons dit, qui est propre à saint Jean. Le lavement des pieds est une expression liturgique de la kénose. À Gethsémani, c'est finalement la kénose en acte. Lui, de condition divine, n'a pas voulu s'emparer comme d'une proie de sang qui l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti, écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Frères et sœurs, sans transition, entrons dans cette heure sainte, nous laissant guider pas à pas par les mots de l'évangéliste. Avec Jésus, offrons-nous, offrons le monde, entrons dans l'humble offrande de sa vie, par amour pour les pécheurs. Amen.